Bonjour et bienvenue à la courte échelle radio anticarcérale, tous les dimanches soirs de 19h30 à 20h sur Radio Galère. Si vous voulez nous envoyer du courrier, vous pouvez nous écrire à la courte échelle, la friche Belle de Mai, au 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Vous pouvez aussi nous appeler en direct au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. Et vous pouvez nous écrire par mail à la-courte-échelle@riseup.net. Ce soir, on est avec Greg.
Bonsoir.
Rustine.
Salut.
Nino.
Bonsoir.
Syl.
Salut.
Et moi, c'est Charlie. Notre émission aujourd'hui, ça va être un peu sur le parcours de Nino, avec qui on a la chance d'être ce soir. Et je lui laisse la parole.
Du coup, c'est sympa, Nino, d'avoir accepté de venir nous voir et de raconter un peu ton histoire. C'est une émission qui parle de prison et toi, c'est quelque chose qui t'a concerné. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de vie en général, en tout cas par rapport à la prison?
Oui, bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, je tiens à dire que tout a commencé mal, hein, que ce soit du début jusqu'à la fin en fait. Hein. Voilà, que ce soit au niveau des juges, au niveau... C'était pour moi, c'était comme un film un peu, hein. C'était une comédie qui se passait sur 3 jours d'assises. Entre les avocats et les juges qui rigolaient entre eux, qui nous traitaient de pourriture, etc. etc. Et c'était pas facile pour nous de se défendre au niveau des personnes qui n'aimaient pas trop qu'on se défende, d'écouter un peu, de nous écouter. Quoi.
Ou t'avais pas trop la place pour te défendre dans le... Là, tu parles de ton procès d'assises.
Là, je parle de mon procès d'assises. Hein.
En fait, on peut peut-être pour revenir un peu sur un truc plus global, général. Quoi, je pense que tu es rentré plusieurs fois en prison.
Ouais, je suis rentré plusieurs fois en prison. Et...
Tu peux raconter un peu les... Tu me disais tout à l'heure que tu avais eu au début des petites peines et puis au fur et à mesure plus lourd.
Oui, je suis rentré 6 fois. J'ai eu plusieurs condamnations, mais je suis rentré quand même 6 fois en prison. Première peine c'était 1 mois, deuxième c'était 8, troisième c'était 1 an, quatrième je me suis retrouvé sur 55 mois.
Okay.
Cinquième fois c'était 1 an et sixième fois c'était 10 ans, septième fois c'était 5 mois. Bon.
Et en fait, ouais, du coup, ça a fait sur le total des condamnations, tu arrives à combien en tout quoi
de... Sur le total des condamnations, j'arrive à plus de 17 ans.
Okay.
Et j'en ai fait 12 pleins avec les remises de peine, okay. Ordinaires, supplémentaires aussi.
Passant, on pourra prendre le temps de l'expliquer un peu tout à l'heure. Ouais, du coup.
Ouais.
Mais en gros, ouais, sur tous les différents procès que tu as eus,
ouais.
On est sur un total de 17 ans de condamnation.
À peu près, ouais.
À peu près, ouais. Et chaque fois, des peines différentes.
Des peines différentes, ouais.
Et du coup, des prisons différentes aussi.
Des prisons différentes, ouais. Selon le lieu où vous avez fait la connerie, bon, rentrez. Ah,
ça, c'est, ouais.
Si ça s'est passé à Marseille, vous rentrez à Marseille. Ça s'est passé à Aix, en général. Hein.
Mais après, tu peux être transféré aussi.
On peut être transféré dans des centres de détention quand on prend plus de 2 ans.
Ouais.
On se doit, même on est même obligé d'être transféré dans un centre de détention pour des peines un peu plus lourdes.
Parce que là, du coup, par exemple, les Baumettes, c'est une maison d'arrêt. C'est plutôt pour les très courtes peines ou le...
Non, pas forcément. C'est plus c'est pour des attentes de jugement, des courtes peines, des longues peines aussi. Voilà.
Qui sont en attente de transfert aussi.
Qui sont en attente de transfert, exactement.
Ouais.
C'est ça.
Du coup, ouais, t'as pu voir un peu tout le... Enfin, un panel un peu des différentes prisons de France.
J'ai tourné un peu, voilà.
Ok, voilà. Ok. Aujourd'hui, on voulait essayer de... Parce qu'en fait, en préparant l'émission, on se disait que t'avais quand même pas mal de trucs à raconter sur différents thèmes.
Ouais.
Et aujourd'hui, on voulait rester un peu sur un axe justice et tout ce qui concerne la justice, que ce soit pendant le procès... peut-être aussi en détention quand il y a des peines supplémentaires en détention,
ouais.
et tout ce qui est remise de peine, grâce, tout ça on en parlera un peu,
ouais.
Et peut-être aussi à la sortie aussi, comment ça se gère après la sortie.
Ok.
Là sur la présentation, c'est on voit un peu ton parcours. Tu disais tu as commencé à parler du procès d'assises que tu as eu.
Ouais.
Et tu parles un peu de comment c'était à se passer entre le procureur, le...
Bah, en fait, on avait très peu de choses à dire. En fait, on nous donnait pas assez la parole. Hein. Et chaque fois qu'on nous donnait la parole, c'était vraiment vite fait, en fait. Hein. Je veux dire, quand vous voyez la tête des juges et tout ça, vous vous demandez, vous posez des questions pour voir s'ils nous écoutent, en fait. Eux, ils avaient une peine de leur tête et c'était ça ou... Et rien d'autre, en fait. Voilà, c'était pour moi un film, en fait. Hein. C'était pour moi un film. Je voudrais dénoncer aussi la justice, surtout sur Aix-en-Provence, surtout ses avocats, surtout ses sous-tables, en fait, voilà. Si vous me comprenez, quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer un avocat qui lui-même peut se payer la tête du juge pour pouvoir avoir une peine beaucoup plus légère. Et malheureux sont ceux qui n'ont pas d'argent, pas de famille, et qui se font défendre par un avocat commis d'office. Voilà. Ça ne sert à rien, au contraire, peut-être même des fois, il nous aggrave. Ça aggrave un peu la peine. Voilà. Ça a été un film de 3 jours, une comédie.
Ouais.
Voilà, j'avais l'impression qu'il jouait un peu le jeu, tandis que nous, on était partis pour des longues peines, on était très sérieux, très chers. Ouais, voilà, exactement.
Ils rigolent un peu entre eux, mais vous êtes en train de jouer des années de...
Exactement.
Ils sont en train de se jouer.
Ouais.
Ah, parce que tu parles de... Un peu cette connivence et cette comédie où ils font le... Où t'as tout un théâtre...
Exactement.
Tout un théâtre. Et, ouais. Et en fait, tu vois qu'en coulisses, ils se connaissent tous et ils mangent ensemble, ils rigolent ensemble. Et quand ils rentrent sur la scène du procès, bon, bah alors là, c'est tout de suite, ils s'opposent, ils sont pas contents, ils se crient dessus, mais c'est une comédie, ouais.
Une vraie comédie, ouais. Malheureusement.
Ouais.
Ouais.
Du coup, ça, c'est un... Pour rester sur ton procès.
Ouais.
Enfin, le procès, en tout cas, que tu as eu aux assises. Ouais. Et est-ce que tu arriverais à parler un peu des différentes... une fois que tu rentres en détention, après le procès,
ouais.
Comment un peu ça se passe en général, en gros, quoi.
En général, vous passez par une case aux arrivants, en fait. Vous êtes mis aux arrivants. Qui est un peu en observation aussi. Ça dépend des prisons. Il y en a où vous pouvez rester 7 jours, il y en a 10 jours, et 4 jours pour certaines prisons et tout ça. Et on vous met avec n'importe qui. Et de là, une fois que vous passez 4 ou 5 jours, une semaine, voire 10 jours aux arrivants, on vous met dans le bâtiment qui convient au chef, en fait. Et voilà. On vous place dans un bâtiment avec un détenu. Vous pouvez vous retrouver à 3. Moi, personnellement, je me suis retrouvé à 3.
C'était où, tu te rappelles?
C'était à Luynes.
À Luynes, ouais. À 3 dans une cellule. Ouais.
À 3 en cellule, je dormais par terre, etc.
Il faut sortir le matelas le soir.
Exactement, c'est ça, en fait. Sur 9 mètres carrés, on était 3. Et voilà, mais après, c'est les conditions de détention, la surpopulation, le travail de certains SPIP qui ne répondent même pas au courrier. La direction aussi, les défenseurs de droit qui travaillent tous bénévolat, ils sont dans le bénévole. Donc du coup, ils vont pas chercher à faire des tâches plus que...
Ouais.
Vous comprenez, voilà. C'est un vrai calvaire, en fait. Une fois que vous rentrez dedans, vous perdez tous vos droits, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. La direction, je sais même pas pourquoi elle existe, à part pour punir. On peut leur écrire des lettres et des lettres, ils ne répondent jamais. Que ce soit pour des transferts, que ce soit pour des. Pour autre raison, des raisons médicales par exemple, comme moi je l'ai fait. J'ai attendu plus d'un an pour me retrouver à l'hôpital. Enfin, vous voyez un peu le.
Ce que tu, ouais. Ce que tu disais, c'était qu'il y avait vraiment une différence de traitement entre. Enfin, que si toi tu es à l'intérieur et que tu es seul. C'est pas du tout pareil que si tu as la famille ou des proches qui peuvent aussi avoir... Enfin, ou si tu as un avocat aussi qui peut t'aider, t'es pas entendu pareil par la direction, quoi.
Exactement.
Il y a un peu un rapport de force qui est hyper différent et que ça joue vachement. Donc, dans comment... Enfin, tu peux nous raconter ça un peu, ce que tu nous racontais tout à l'heure?
Ouais, c'est très différent, en fait. Hein. Je veux dire, c'est très différent quand c'est la famille qui écrit au juge, à la direction... Alors que nous, nos courriers, on se demande s'ils sont lus, en fait. Hein. Voilà, hein. Les directrices, ils n'ont pas que ça à faire. Enfin, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ne se donnent pas le temps de... Vous voyez, c'est des femmes que j'ai appris à connaître avec le temps, vous voyez. Et je me demande à quoi elles servent, en fait. Hein. Mis à part punir, juger au prétoire, je me demande où nos courriers passent, en fait. Toutes ces plaintes et tout, voilà. Il y a plusieurs détenus qui sont écrits avant de passer à l'acte suicidaire, qui sont fait part de leurs soucis au chef, qui sont fait part aussi, et qui n'ont jamais été pris au sérieux, quoi. Vous voyez, c'est... Et ça continue, hein, et ça continue. Vous voyez ? Voilà. Et les directrices, elles sont là pour juger au prétoire, elles sont là pour donner des défavorables dans des demandes de conditions. Donc j'aimerais bien qu'on pose des questions dessus, puisque
on va y arriver, ouais, ouais.
Voilà. Mais c'est... Une fois que vous êtes dedans, en fait, vous n'êtes plus rien, en fait, hein, en gros.
Ouais.
Grosso modo, c'est que vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes que numéro d'écrou et point barre. Voilà. Seul celui qui a de l'argent, qui a un bon avocat, qui puisse. Voilà, mais il faut avoir de l'argent pour ça. C'est pas tout le monde.
Tu as senti un peu des différences suivant les différents établissements où tu étais, quoi, suivant les différentes prisons t'as...
Ben franchement, non. La direction, pour moi, elle est restée les mêmes. Pourtant, j'en ai fait des prisons. J'en ai fait pratiquement une dizaine. Hein, je veux dire, ouais.
Plutôt dans le sud, tu disais, un peu dans le nord aussi. Quoi.
Un peu dans le nord, un peu dans le sud et tout. Et pour moi, c'est.
Pareil.
C'est pareil.
C'est pareil. La c'est prison, pareil. C'est la prison.
La prison, c'est la prison. La direction, c'est la direction. C'est les mêmes. C'est, voilà, de partout, c'est pareil. Quoi.
Ok. Et du coup, voilà, tu as commencé à parler un peu de... Justement, une fois que tu es en détention. Alors, toi, tu avais... Sur toutes tes condamnations, finalement, tu n'as pas fait... J'avais un peu pour les gens qui ne connaissent pas du tout la prison, la justice. Comment ouais. Ça marche, quoi. On dit sur... toutes les condamnations, tu fais pas tout ce à quoi tu es condamné. Ouais, ouais. Quand tu prends une peine de 10 ans, normalement t'en fais un peu moins parce qu'il y a des mécanismes un petit peu automatiques.
Sur les remises de peine, par exemple.
Ouais, ça tu peux en parler voilà, un peu, oui. Expliquer, ouais.
Ben oui, les remises de peine supplémentaires, elles sont faites pour ceux qui ont des activités en prison. Comme il y a l'école, comme travailler, comme toute activité, en fait. C'est pris en compte, en fait. Vous voyez ? Voilà.
Ouais, ouais. Donc, du coup, c'est un peu de... C'est toujours ce truc de carotte et bâton, où tu fais un faux... Si tu te comportes bien, si tu fais tes
exactement,
activités...
Exactement, mais ça
si
peut partir très vite, hein. Vous savez, c'est comme le permis, hein.
C'est ça.
Vous le passez lentement et vous perdez vos points vite fait. Mais c'est exactement pareil, hein. Il suffit que vous preniez 30 jours de cachot pour vous enlever 60 jours... De
remise de peine.
De remise de peine, hein. Ouais. Je ne sais pas si ça se passe comme ça encore aujourd'hui, mais avant, c'était le cas.
Parce qu'ils ont changé le système il y a quelques années, là où avant, tu avais des remises de peine qui étaient vraiment toutes automatiques.
Voilà.
Et maintenant, c'est un peu... en fait, ça dépend de ta bonne conduite, quoi.
Exactement.
Même les remises de peine automatiques.
Même les remises de peine supplémentaires, ouais, voilà. Même les remises de peine automatiques, quoi, ordinaires.
Donc ça, c'est...
RPO.
Alors voilà, RPO, moi, je ne savais pas ce que c'était.
Alors RPO, c'est remise de peine ordinaire.
Ouais.
C'est ce qui te donne dès le début, en fait, une fois que tu es jugé. RPA, c'est remise de peine supplémentaire.
C'est donc selon RPO, c'est un truc qui est un peu. Qui est quasiment automatique. C'est à peu près un tiers de la peine, non, c'est ça
ben, sur 10 ans, on m'a donné 21 mois de RPO.
Ok, ouais. Non, c'est pas un tiers, mais c'est voilà. Un peu plus.
Et tu as les RPE qui, c'est des remises de peine exceptionnelles, mais il faut vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Hein.
C'est pour les super-héros, ça.
Ça, c'est pour les super-héros qui balancent certaines personnes en prison.
Ah, donc c'est pas vraiment des super-héros, alors.
Voilà, hein, qui balancent certaines personnes en prison pour justement toucher un peu plus de grâce. Hein.
Ok.
Voilà, et sinon, tu peux aider un surveillant dans ses tâches parce qu'il se fait agresser par un détenu.
Ok.
Un super-héros, comme tu dis, et là, il peut toucher des remises de peine exceptionnelles. Mais c'est très exceptionnel, hein. C'est pas pour rien que...
Que ça s'appelle comme ça.
Voilà, exactement. Okay, c'est ça. Ouais.
C'est vraiment quand tu fais du zèle avec la paix, quoi.
Et encore, hein.
Et encore. C'est vraiment quand ils n'ont pas d'autre choix, quoi. Que quand voilà. T'as un truc qui passe à la télé, ils sont là-bas et qu'on est obligé de lui mettre un truc exceptionnel.
C'est un peu comme le sans-papier qui, en France, c'est qu'à sauver une vie, quoi. Et vous savez,
lui, ouais,
demain,
ouais,
on lui donne sa nationalité, etc. Ouais. Mmh. C'est vraiment exceptionnel.
Ok, donc ça c'est un peu dans le, ouais, c'est les trucs un peu dans les peines courantes.
Ouais.
Et toi tu voulais parler un peu des demandes de conditionnel.
Ben oui, je tiens fort à dire un mot là-dessus, c'est que ce qu'on entend sur les mi-peines, sur une fois que tu es dans tes droits pour demander une remise de peine, pour demander une conditionnelle, c'est quasiment, c'est, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On vous refuse pour des trucs incohérents. Ça veut dire qu'on va chercher un dossier, une connerie que tu as fait en prison, même s'il y a 4 ans en arrière, ou bien, tout simplement, en fait, une simple suspicion de récidive qui va permettre au juge de se tranquilliser en mettant des refus. Moi, je ne connais pas grand monde qui est sorti au temps où il fallait sortir, en fait, au temps où il était dans ses droits de sortir, avec des dossiers en or. Même avec des dossiers en or.
Avec des promesses d'embauche.
En général, on vous fait sortir quand il vous reste 6 mois, 4 mois, quand ça ne sert plus à rien. On va voir le détenu qui demande plus rien parce qu'il n'espère plus rien des juges, justement. Voilà, moi, c'est un truc, en fait, je ne comprends pas pourquoi. Et je tenais aussi dans cette émission à dénoncer ces juges, en fait, qui ont pris la responsabilité dans ses fonctions de faire un si haut métier, enfin, de faire juge, mais qui ne prend pas la responsabilité de relâcher un détenu de faute qu'on lui claque un peu des doigts, quoi. Enfin, qu'on lui claque un peu les doigts, quoi. Vous voyez ce que je veux dire,
hein? Oui, du coup, c'est...
Ça, c'est le gros problème, c'est le vrai problème, en fait, qui est en prison. C'est ça, je tenais aussi à passer un petit message pour les détenus qui se plaignent pour des futilités, des manques d'activité alors qu'ils s'en foutent complètement. Je tenais à leur dire qu'il faut penser à sortir, tout simplement. À partir du moment où on met un pied dedans, on pense forcément de suite à... On compte les jours, en fait. Hein. On pense forcément à sortir et...
Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué de critiquer les détenus qui veulent faire des activités, mais en fait, qui en ont rien à foutre de l'activité.
Exactement.
Parce qu'en fait, ouais, mais c'est... Enfin, moi, je comprends tout à fait le système de dire, bon, en fait, ça donne des grâces supplémentaires, ça donne des remises de peine de faire des activités, ben autant... Voilà. En fait, il y a des gens qui peuvent refuser complètement de dire « moi, j'ai rien à voir avec tout ça, j'ai pas envie
».
D'autres gens, mais en fait, qu'ils le font, ils ont pas envie de faire des ateliers théâtre, mais en fait, ils le font parce que ça donne des grâces, quoi.
Exactement, c'est ça, en fait. Hein. Mais en aucun cas, moi, enfin, personnellement, je connais beaucoup de détenus, et c'est toujours les mêmes, pratiquement. C'est des gens qui sont tournés, parce que moi, je tourne depuis 2003, quand même, en prison. Voilà, je restais pas à long feu dehors et la prison n'a rien changé. C'est au jour d'aujourd'hui que je me suis rangé, c'est pas la prison qui m'a changé, en fait. Hein. C'est parce que j'arrive à un âge, l'âge de la raison, où je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête ces conneries, c'est fini, ça marche pas pour moi et tant mieux pour ça. Et tant mieux, mais c'est à la prison, en aucun cas, elle m'a fait changer ni à moi, ni aucun détenu que je connais, en fait. Hein. Il y a toujours ces petites craintes de rentrer en prison, mais ça m'a pas évité... un criminel à faire son crime, un vendeur de shit à vendre son shit, etc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est...
Ouais, ouais, bah ouais.
Voilà,
bah, c'est... Comme disait Lunatic à l'époque, quoi, nique sa mère la réinsertion, quoi, ça marche pas.
Ça marche pas. Ça marche pas. Et statistiquement, on n'en parle pas, mais le taux de récidive, il est énorme. Il a pas bougé.
Et la prison, elle est pas là pour trouver des solutions et régler les problèmes.
Ben voilà, il y a aussi ces détenus qui se battent pas assez aussi, puisque la majorité des gens incarcérés en prison, c'est des jeunes, en fait. Et c'est ça le problème. Les jeunes, ils s'en foutent, en fait. Ils savent pas, ils connaissent pas le stylo et le papier, en fait. Quand il y a un juge qui a pour responsabilité un quart de détenu. 300 détenus, par exemple, sur un bâtiment, on va dire, faut se focaliser dessus. Si le juge est très négatif au niveau des demandes et tout ça, ben, il faudrait que les détenus puissent se rassembler et faire des courriers tous ensemble pour pouvoir changer le juge. Tout simplement parce qu'on a un juge qui est contre la réinsertion sans même le savoir, en fait. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas prendre la personnalité. Elle veut pas prendre la responsabilité de libérer un détenu par crainte de récidive. Elle préfère entrer chez elle, tranquille. Et quand je dis chez elle, excusez-moi, parce que la majorité, c'est des femmes. Hein. Je sais ce qu'il y a. Hein. C'est la majorité des juges que j'ai connus, en tout cas moi, c'était des femmes. Hein. Que ce soit pour tout demande. Je me suis tout refusé, moi. On m'a refusé... de me diminuer ma sûreté de peine, on m'a refusé des conditionnels, alors que je venais avec des dossiers, on me parlait toujours de la même affaire.
Hein? Et des permissions aussi.
Et des permissions, exactement. Ouais. Ouais, exactement.
Ouais. Du coup, ouais, parce que cette histoire de conditionnel, c'est vrai que tu as les juges qui prennent pas de risques en donnant pas des conditionnels parce qu'ils ont peur de trucs un peu médiatiques.
Récidive, une simple crainte.
Ou des récidives, ou c'est des gens risque, qui rentrent pas de permission, ou de tout ça. Ouais. Donc, ils sont un peu radins sur ça.
Exactement, très radins même.
Ouais. Juste, mais c'est un peu juste pour se protéger eux, quoi.
C'est exactement, exactement.
Alors que légalement, les gens, ils auraient droit à ça, quoi.
Exactement.
La suspicion de récidive dont tu parlais tout à l'heure, elle est, comment dire, elle n'est pas fondée sur des preuves. C'est vraiment juste un peu, c'est très, c'est pas rationnel comme, enfin, c'est pas du tout fondé. C'est souvent juste une crainte, une peur qu'on peut un peu juste monter comme ça et.
Exactement.
Et c'est pas un truc fondé, quoi.
C'est ça, exactement, c'est ça. Okay. Et c'est pour ça que la majorité des détenus se voient refuser des conditionnels.
C'est au bon vouloir des juges, quoi.
Voilà. Ouais.
C'est ce que tu racontais, qu'en fait, le juge, lui, tout ce qu'il prend, il récupère le dossier. Ça fait 2 ans qu'il t'a pas vu parce que t'as fait une demande il y a 2 ans.
Exactement.
Pendant les 2 années, il t'a pas vu. Il sait pas du tout comment la personne, elle s'est comportée et tout.
Comment elle a évolué, exactement.
Et par contre, tout ce qu'il voit, c'est les comptes rendus d'incident, c'est les altercations qu'il y a eues avec les matons qui demandent des jours d'ITT. Ça, par contre, ça apparaît dans le dossier, quoi.
Ben,
et
oui,
toutes
exactement.
Les choses positives, elles sont pas trop, voilà. Elles sont pas trop là, quoi.
Exactement, exactement. C'est fou à dire, mais le détenu, il a beau avoir le meilleur comportement, à aider même certains surveillants, chefs, etc., à être droit. Pour ça, on ne lui donne pas de bons points, quoi. On ne va pas écrire un bon rapport, en fait, un rapport positif sur son bon comportement, etc. Mmh. Mais par contre, la moindre petite erreur, ils ne vont pas la manquer là-dessus. Bah ouais. Je veux dire, voilà.
Ouais, coup, c'est
ça, c'est un peu le travail des surveillants, etc. Voilà.
Ouais.
Voilà, c'est. Il faut dire ce qu'il y a. C'est la face cachée un peu. De la prison, quoi.
Et puis les erreurs, ça arrive vite aussi, parce que tu parlais tout à l'heure de à quel point ils vous poussent à bout, en fait. Quand tu n'es pas entendu, que tu écris à la directrice et tout, et que tu envoies lettre sur lettre, et que tu n'as aucune réponse, que tu ne sais même pas si elle l'a lu, tu es poussé à bout, quoi.
Ben exactement, de toute façon, il y a tout là-bas pour être poussé à bout, en fait. Hein. Entre les rendez-vous médicaux, entre les demandes, entre les ceci, cela, il y a tout, en fait, qui... C'est... À un moment donné, vous voyez tout refusé, vous dites dans quel monde on vit, quoi, en fait. Dans quelle société on vit, dans quelle justice on vit. Hein. Moi, je suis, personnellement, c'est pas question que je défends les détenus. C'est moi, je suis quelqu'un d'équitable dans ma vie. Vous voyez, si un juge ferait. Si les juges, au jour d'aujourd'hui, feraient leur métier comme il le faut, en fait, eh ben, je serais plutôt à inciter les détenus à dire arrêtez de faire les malins, essayez de vous tenir tranquille. Et focalisez-vous un peu plus sur votre aménagement de peine, votre demande de liberté, etc. Vous voyez, c'est...
Bah, du coup, c'est pas le cas, quoi.
Vous voyez, ça sert à rien. C'est pour manger des mois, vous faites pleurer vos familles, etc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est...
Ouais, bien sûr. Bah, parce que, après, là, tout à l'heure, tu parlais de gens qui commencent à se faire, justement, à force de ne pas être entendus, qui commencent à se faire du tort et à se faire du mal à eux-mêmes.
Ouais, exactement.
Ou, comme on parlait un peu avant l'émission, là, de prise d'otage ou de gens qui arrivent à des situations qui sont complètement extrêmes.
Exactement.
Mais c'est jamais par plaisir, quoi.
Exactement. Des prises d'otage, tout ça pour se faire transférer. Mais on ne regarde pas. Combien de courriers il a fait pour tout ce qu'il a fait de bien pour pouvoir être transféré. Non, lui, ce qu'on va voir, c'est sa prise d'otage. Il a fait quelque chose de grave, il faut qu'il soit puni. On va lui mettre 4 ans en plus de prison. Mais on ne raconte pas tout ce qu'il a fait avant.
Ouais,
voilà.
Et sans écouter le pourquoi.
Pourquoi, en fait. Ouais. Hein. Voilà. Et ça, c'est aussi un peu le travail des médias qui montre ce que la direction de l'établissement où s'est passé ces choses-là veulent montrer, en fait. Hein. C'est tout un cercle vicieux, en fait. Hein. C'est tout un... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Un détenu, ça reste un détenu. Hein. C'est...
Voilà. Du coup, c'est
méchant, quoi.
Et c'est le même système pour les conditionnels et les permissions, comme on disait.
Exactement, c'est le même système. Hein. La majorité des jeunes, je les voyais revenir après des... Voilà... déçus après des refus, alors qu'ils avaient des dossiers en or, en me disant, moi je ne demande plus, il me reste 1 an. Ils m'ont tout refusé. Maintenant, les 1 an, je vais les faire plein. Je ne demande rien à eux.
Mmh.
Et ils vont se faire un peu voir, quelque sorte.
Ouais, voilà. Et puis on arrête l'ascenseur émotionnel de déposer, avoir l'espoir.
Exactement,
de machin,
c'est
et
ça.
Puis après être déçu.
Ben,
et
la prison, elle t'enlève tout espoir. Ouais. Hein. C'est vraiment le but. J'ai l'impression que c'est vraiment le but de... En fait, la prison, ça tue, en fait. Ça tue un homme. Voilà. Sans compter les gens qui rentrent dans la folie. Hein. On ne parle pas que du taux de suicide. Hein. Je connais beaucoup de personnes qui sont rentrées dans une folie. À cause de tous ces refus, de, vous savez, vous avez des surveillants qui sont témoins, vous avez des chefs qui sont témoins de, d'une personne qui commence à sombrer tout seul. On la voit quand même se retirer un peu des détenus, on la voit après marcher tout seul, petit à petit à la psychiatrie, les médicaments, etc. Et le mec, c'est devenu le loc. Et voilà, sa famille, il retrouve plus... sa mère, elle retrouve plus son fils, en fait. C'est plus son fils qu'elle a. C'est une légume, en fait, le mec. Il est, voilà, quoi. Il a, en quelque sorte, comme on dit chez nous, ici à Marseille, il a serré, quoi. Il est devenu fou, quoi. Voilà, ça y est. Et, et malheureusement, c'est le cas.
Du coup, on a parlé un peu de toutes ces manières de sortir plus tôt, j'allais dire, quoi. Mais ouais, mais il y a aussi on n'a pas parlé du bracelet aussi,
ouais,
qui peut être aussi un aménagement de fin de peine.
Ouais, c'est ça.
Ça, tu connais un peu, non?
Ben moi, je suis sorti en bracelet, en fait. Hein. Je suis sorti en bracelet. Mais une fois qu'on vous fait sortir, après, on trouve de l'aide dehors. Hein. Les spips, ça n'a rien à voir avec les spips
à l'intérieur.
Okay. Le monde, il change un peu. Vous êtes enfermé. Enfin, vous avez un bracelet, vous êtes enfermé à la maison. C'est plus pareil. Les demandes de juge, s'ils sont acceptées, vous voyez. Demain, il y a une perte de sa famille en Algérie. Il va faire une demande de permission. Le juge va l'accepter. Le mec, c'est bon. Une fois qu'il a mis un pied dehors, c'est bon. Mais c'est plus à l'intérieur. En fait,
okay.
C'est plus à l'intérieur. Okay. C'est une fois que vous êtes à l'intérieur, tout est refusé, pratiquement tout. En fait, il y a vraiment celui qui est un bon avocat et pas besoin forcément d'un métier, enfin d'une belle promesse d'embauche, quoi. En fait, mais il faut vraiment que la personne ait un bon avocat pour pouvoir sortir. Et encore, c'est pas gagné.
Bon avocat, ça veut dire de l'argent.
Et qui dit bon avocat, qui dit avoir beaucoup d'argent aussi, parce que c'est pas un avocat d'office qui voilà.
Et là, par exemple, sur les conditionnels dans ton expérience personnelle
Moi, j'ai fait mes premières demandes de conditionnels au temps où il fallait les faire.
Dès que tu as eu le droit légalement de les faire, tu les as faites.
Mais le problème, c'est que j'ai eu que des avis défavorables, en fait. C'est-à-dire, on m'a ramené un expert psychologue ou psychiatre qui est venu m'expertiser en 15 minutes, quoi. Ça veut dire qu'en 15 minutes, madame, elle connaît toute ma vie.
Il a tout compris. Ouais.
Et elle est partie dire comme quoi je me victimise beaucoup, comme quoi je ne me victimise pas. Je l'ai regretté, j'en ai parlé mille fois. On m'a parlé mille fois de cette affaire dans toutes mes demandes. Je l'ai regretté. À un moment donné, forcément, je ne parle plus de cette affaire. Ça y est, pour moi, je l'ai regretté, je l'ai payé. Et j'essaie d'avancer, en fait. Hein, c'est pour ça que je suis là. Mais non, l'expert, elle est partie, mentionner qu'il y avait une grosse succession de récidives, alors que je m'étais rendu avant même de rentrer en prison. En fait, j'avais tourné la page à ma vie avant même de rentrer en prison. En fait, hein, je suis passé en libre, mais ça, ils l'ont pas retenu par contre. Hein. Je suis venu, je suis passé en libre après que le procureur a demandé 17 ans de prison. Je suis venu quand même. Ça, ils l'ont pas, non, mais ils sont partis voir, farfouiller un peu sur ce que j'ai fait en détention, etc. Et que du mauvais, que du positif. Et pourtant, pendant tout le long de ma peine, j'ai eu 3 séries sur une peine de 10 ans. Quoi. Enfin, 3 séries.
3 séries. Alors, 3 compte rendus d'incident sur 10 ans. Ouais, sur 10 ans. C'est vraiment pas grand-chose. Ouais.
Et la majorité du temps...
Compte rendu d'incident, c'est quand c'est un maton qui dit qui fait un rapport parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Quoi.
Exactement, ouais. C'est ça.
Pour expliquer un peu. Ouais.
Voilà, j'ai eu 3 compte rendus d'incident dans une peine de 10 ans. Quoi.
Ouais.
Et j'en ai fait... voilà.
Et du coup de conditionnel, sur les 10 ans.
Ça a été refusé.
Ah oui, c'est les 4 mois de bracelet, c'est ça?
Voilà.
Juste quatre mois avant la fin des 10 ans, ils ont dit OK, c'est bon.
Voilà. Dès qu'il me restait 4 mois, ils m'ont accepté le bracelet.
Okay.
Voilà comment ça fonctionne, en fait, la prison. Dès que vous en avez plus besoin, en fait, ils sont là pour. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ma demande, moi aussi. Hein, parce que j'ai continué à me battre. J'étais dans un état très grave, en fait. Hein, je suis atteint de plusieurs pathologies.
D'accord.
Une SPA, etc. Vous voyez, j'ai aussi ce truc-là, claustrophobe. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, je ne supportais plus l'enfermement, en fait. Hein. Vous voyez, vous imaginez un peu, tourner en cellule comme ça, 9 mètres carrés.
Voilà. Et du coup, sur les 4 mois qui restaient de peine, le bracelet, tu l'as gardé combien de temps, tu te rappelles ?
4 mois.
4 mois, tu as fait taper les 4 mois qui restaient de peine, mois, les 4 mois de bracelet. Ouais.
Okay, voilà, okay. Exactement, c'est ça.
Ok. Eh ben...
En fait, il me restait 6 mois, mais il y a une dernière, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les dernières remises de peine, en fait.
Okay.
mais vous passez pas comme d'habitude puisque vous restez, enfin, vous faites pas les un an. Donc du coup, ça s'appelle reliquat de fin de peine, je pense.
Ah, les reliquats, ouais, ouais.
Voilà, ça s'appelle reliquat de fin de peine. Il me restait 6 mois, mais dans ma tête, je comptais 4 mois et j'ai fait 4 mois. 4 mois de bracelet, ouais. Voilà.
Ok. Du coup, une fois que ça s'était fini, alors une fois que tu étais dehors, tu avais le bracelet, ce qui est aussi encore, ce qui est tout un autre truc, on pourrait faire une émission entière pour parler du bracelet.
Ouais.
Mais, et après, une fois qu'ils t'ont enlevé le bracelet,
ouais,
là, y a eu, c'était complètement fini. Il n'y a plus de SPIP, il n'y a plus de suivi.
Non, plus de SPIP, plus de suivi, plus de rien du tout.
Okay.
Voilà, une fois que vous avez fini votre peine, vous êtes livré à vous-même et voilà.
Bon, c'est pas exactement le cas pour tout le monde, quoi, mais
ouais.
Ouais, d'un côté, tu as eu un peu de la chance qu'au moins ils te lâchent et ils arrêtent de te convoquer, de te faire des rendez-vous.
Oui, non, parce que j'ai pas eu de problème d'addiction, moi, en fait, de drogue ou quoi que ce soit. Donc, du coup, ils n'avaient pas besoin de me mettre un suivi psychiatrie, psychologique, okay, etc.
Je pense que c'est pas que pour les problèmes d'addiction. Je pense que c'est pour d'autres trucs aussi. Des gens qui continuent à être suivis derrière
d'accord,
à la sortie. Ouais, ouais. Bon, d'accord, après, okay, je pense que ça dépend, voilà, de chacun.
Alors, j'aimerais toucher aussi un petit mot pour ma pathologie.
Ouais.
Voilà, comme quoi j'ai une maladie très invalidante. Ça s'appelle une spondylarthrite ankylosante. Et on me disait comme quoi j'allais très bien soigner en prison. On m'a mis 3 ans pour me donner ma première injection. Et ma première injection, en fait, c'était pas celle qu'il me fallait, en fait, parce que ma maladie, elle avait gravement évolué.
Ah, donc ouais, moi, c'était... 3 ans, ouais.
Voilà, moi, je devais faire une biothérapie. C'est un peu comme une chimio, vous voyez.
Okay.
Et c'était par Remicad et ça se fait qu'au sein de l'hôpital, vous voyez. Et ça range pas vraiment les surveillants, les extractions tous les 15 jours, ouais, pour aller à l'hôpital à chaque fois, juste pour moi, etc. 3 ans, vous imaginez? 3 ans pour me soigner. 3 ans. Pour commencer, les premiers soins. Encore,
ouais,
ils n'ont,
ouais,
pas fonctionné.
Ouais, ouais,
hein,
ouais.
Voilà, c'est pour vous dire, regardez à l'extérieur, déjà les demandes, l'attente pour voir un cardiologue, pour voir un rhumatologue, comment c'est long. Alors imaginez-vous en prison.
Et ouais.
C'est quasiment impossible. Ouais. Hein, voilà, il faut être fort, il faut être
déjà
très fort.
Passé un an où ils te donnent du doliprane, là, quand tu te demandes.
Exactement, doliprane, voilà, c'est tout ce qu'ils savent. Voilà, voilà, c'est tout ce qu'ils vous donnent.
Et après, si encore mal, ils commencent à s'intéresser au truc.
C'est, hein, ça, ouais, c'est ça.
Bah, y a moyen qu'on te fasse, qu'on te demande de revenir, Nino, pour peut-être justement de faire une émission où on parlera que de la santé, de l'accès aux soins en prison, parce que c'est aussi tout un truc qui est assez trash, quoi, et ça peut être bien d'avoir des retours directs comme le tien. Est-ce qu'on est pas mal dans le cours de l'émission ou il nous reste des trucs à dire?
On est pas mal, ouais. Merci, Nino.
Ouais, j'aimerais aussi toucher une fin.
Dernier mot à dire, vas-y, ouais.
Alors j'aimerais faire passer ce message aux détenus, qu'ils soient jeunes, vieux ou peu importe, de leur faire comprendre que soyez plus discrets, arrêtez de vous plaindre pour des futilités, arrêtez de je sais pas quoi, mais défendez-vous un peu contre les juges qui donne des avis défavorables tout le temps, sans cesse, ainsi que la direction. Parce que la direction, c'est tout, en fait. Hein. Il suffit que vous mettez la directrice sur votre dos. C'est clair que la directrice, elle travaille avec les juges, ainsi que les SPIP. Vous voyez, moi, je commence à dénoncer un peu tout ce cercle, tout ce petit cercle, et je voudrais dire aux détenus de vous défendre, surtout sur pas que les conditions de détention, mais surtout pour la libération, en fait. Il faut voir plus grand. Voilà, j'aimerais que vous voyez plus grand les choses, et c'est simple, hein, il suffit que vous tombez sur une personne qui sait bien écrire, et vous voyez, pour vous faire aider, ça peut vous faire aider, mais focalisez-vous un peu plus sur votre libération. Voilà, c'est le conseil que j'ai donné à tous les détenus. Mettez-vous ensemble, soyez un peu sérieux dans votre vie. Voilà.
Ah, moi, j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure aussi, de faire des lettres, essayer de se mettre à plusieurs et faire des lettres communes pour dénoncer tel truc.
Exactement, voilà, c'est ça. Exactement. Soyez intelligent, c'est ce que je vous dis. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Soyez intelligent.
Voilà. Bah, super, merci beaucoup, Nino, hein, pour ton témoignage, quoi. Et bah, tu reviens quand tu veux, le micro il est ouvert.
Merci.
Et ça me fait plaisir de te recevoir. Ouais.
Merci, avec grand plaisir, merci beaucoup. Hein.
Ouais, t'es bienvenue quand tu veux.
De rien, merci. Merci, Charlie.
Peut-être on va un peu enchaîner sur des brèves et l'agenda pour finir cette émission. Et après, on aura une petite musique que Nino nous a conseillé de mettre.
Une petite brève sur la manif d'hier. 25 novembre, c'était la manif contre les violences sexuelles et sexistes. Il y a eu une prise de parole notamment de, du collectif Anticra qui est revenu notamment sur l'isolement que vivent les meufs. Enfin, par exemple, c'est un enfermement qui fonctionne sur une binarité homme-femme. Et il n'y a pas de section à Marseille. Du coup, en fait, quand les meufs sont arrêtées ici dans les environs, elles sont envoyées à Toulouse, ce qui majore leur isolement. Elles ne peuvent pas avoir le soutien de leur famille, leurs proches, leurs potes. Le collectif est aussi revenu sur les révoltes qu'il y a eu cet été, en disant que malgré le décès de l'un des prisonniers, il y a quand même des, d'autres prisonniers qui ont pu être... libérés et que ça a du sens en fait. L'incendie qui a été déclenché a rendu inaccessible une partie du CRA et grâce à ça, il y a des personnes qui ont pu sortir. Et du coup, bah, dans une idée de féminisme anticarcéral, l'idée bah, c'est de refuser en fait les réponses sécuritaires, répressives qui augmentent toujours les peines et qui donnent plus de pouvoir aux keufs. Et qui alimente la haine raciste et classiste. Mais du coup, c'était un peu l'appel à la fermeture des CRA et à démanteler les tôles. Et de trouver, en fait, la force pour d'autres réponses contre les violences sexistes et sexuelles. Et voilà pour cette brève.
Et une deuxième petite brève, c'est on voulait juste parler de la petite revue Ravage là, qui a été faite autour de Briançon, justement qui parle de frontières, passage de frontières, et de la situation des personnes en mouvement là, qui se retrouvent là-bas, et qu'on espère qu'ils se retrouveront jamais en CRA. Agenda ?
Oui, peut-être, je fais ça. Il y a un petit rappel de l'AG Anticra, la prochaine AG Anticra qui sera le 6 décembre. Donc c'est un collectif marseillais dont vient de parler la Poto qui se bouge un peu contre les CRA, les centres de rétention administrative, les prisons pour les personnes sans les bons papiers. Et donc il y a une prochaine AG, c'est toutes les deux semaines, le mercredi soir à 18h. À 18h au SNAC, c'est au 1A rue Espérant Dieu. Et voilà, vous êtes les bienvenus le 6 décembre.
Yes. Et merci encore Nino. On va finir l'émission avec un petit son que tu nous as choisi. C'est N'oubliez jamais de Joe Cocker. Parce qu'il ne faut jamais oublier ce que la paix nous fait subir, l'administration pénitentiaire. On vous met ça. Merci.
Merci, bisous.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Do you dance to the same old songs? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. A need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. A need to disagree. But rules get in the way. N'oubliez jamais. Searching for love or fame, it's all